nous puissions continuer donc à bénir notre Seigneur, à mettre notre confiance en lui, qu'on puisse aussi se mettre à son écoute ce matin. Donc, l'Esprit a déjà donné une direction à travers le temps de louange, à travers ce témoignage. Et nous allons le continuer avec une lecture bien connue des trois premiers versets d'1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Les versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors, pendant les vacances, non seulement j'avais lu, comme je disais la semaine dernière, le psaume 149, mais j'avais aussi lu les épîtres pastorales, qui sont donc des lettres de Paul adressées à ses collaborateurs de la génération suivante, donc à Timothée et à Tite. Et si vous lisez ces lettres en particulier, donc Paul leur donne des indications pour les gens qu'ils devraient choisir pour leur confier des responsabilités dans les églises qu'il avait fondées. Il leur disait ce qu'il fallait chercher chez une personne qui serait donc apte à prendre des responsabilités. Ça parle des diacres, des anciens, donc selon les traductions, des pasteurs, des évêques, des responsables, des leaders d'église. Ce qui est intéressant lorsqu'on lit ces passages qui prennent pas mal d'espace dans ces épîtres pastorales, on se rend compte que l'apôtre Paul parle surtout du caractère de ces personnes. Il indique quel caractère chercher pour confier à quelqu'un une responsabilité. Tout comme il le fait aussi dans ces versets que nous venons de lire. Il dit ce qui compte le plus, c'est ce caractère. Et une lecture plus large des autres parties du Nouveau Testament montre que ce principe s'applique non seulement aux responsables des églises, mais finalement représente une définition de la réussite dans la vie chrétienne. Si on veut réussir, le Seigneur nous le dit dans sa parole que ça concerne avant tout notre caractère. Donc la Bible nous montre l'importance de notre caractère. Parce que donc, il me semble que chaque fois que le Nouveau Testament parle du choix de quelqu'un pour exercer un ministère ou prendre une responsabilité dans l'Église ou servir dans l'Église, elle parle finalement très peu des qualifications ordinaires en termes de diplôme ou même en termes de dons. Elle parle surtout du caractère qu'il faut chercher. Si justement on lit ensemble certains de ces textes des épîtres pastorales, il va devenir évident. Donc Tite chapitre 1, verset 5, l'apôtre Paul dit donc à Tite: « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, intéressant, n'est-ce pas? Paul dit, si vous cherchez justement un CV comme Bertrand avait envoyé, je ne sais pas combien de copies de son CV, si vous cherchez le CV d'un responsable, il ne dit pas, bah, cherchez le diplôme de tel institut. Alors, Rodrigo m'excusera, c'est important de faire ses études. Mais finalement, Paul lui dit, ce n'est pas la première chose à chercher. Il ne dit même pas, cherchez quelqu'un avec un caractère dynamique, fonceur, bon administrateur, quelqu'un qui serait bon en affaires. Il lui dit de chercher au niveau du caractère de la personne. Il dit, mettez en place des responsables si vous trouvez quelqu'un qui a le caractère qui correspondra au ministère. Si on regarde également dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 13, il dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc lorsque la Bible nous donne les critères à chercher pour quelqu'un qui va exercer un ministère, la Bible souligne surtout le caractère. Et même chose lorsque la Bible met en garde quant à certaines personnes qui exercent des responsabilités dans l'Église, qui ont un ministère, mais dont il vaudrait mieux se méfier. Nous montre les caractéristiques, quoi chercher si on veut jauger un ministère. Et là aussi, donc, la réussite qui est mise en avant n'est peut-être pas la réussite dont on imaginerait en premier, mais concerne le caractère de la personne. De Pierre, chapitre 2, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Passons au verset 9. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Donc, à chaque fois, l'apôtre Paul dit ce qui compte, c'est le caractère. Il ne parle pas d'avoir une personnalité charismatique, il ne parle pas des dons, que ce soit des dons spirituels ou autres. Justement, l'apôtre Paul, dans les versets qu'on a lus en introduction dans 1 Corinthiens 13, il dit, mais à quoi sert de pouvoir parler en langue, de pouvoir faire des miracles, de pouvoir prophétiser si mon caractère ne ressemble pas à Jésus-Christ, si mon caractère ne correspond pas au don. C'est tellement dommage quand on voit dans les églises des personnes très douées, mais qui n'ont pas le caractère qui correspond et qui leur permettrait donc de bénir l'Église à travers leur don. Une telle gâchis, lorsque ce caractère n'a pas été développé comme il faut pour correspondre au don. Finalement, en quelque sorte, quand on y réfléchit, c'est juste une extension du principe que Dieu avait révélé à Samuel lorsqu'il a choisi le roi David. Vous vous souvenez peut-être dans 1 Samuel 16, il y a le père de David qui fait défiler tous ses fils. Samuel qui est impressionné en voyant les frères aînés de David et qui dit « Ah ben là c'est clair que ça doit être parmi eux que Dieu a choisi le roi, il a bien l'air d'un roi. » Mais dans le verset 7, Dieu dit à Samuel « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et donc finalement, dans le Nouveau Testament, c'est toujours pareil. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas au don extérieur de la personne, ça c'est secondaire. Il dit ce qui compte pour pouvoir exercer ses dons, c'est le cœur, c'est le caractère. Comme dit l'apôtre Paul, si je n'ai pas l'amour, tous mes dons ne servent strictement à rien. Mais comme je dis en introduction, le Nouveau Testament nous montre que ce qui est vrai pour un responsable de l'Église s'applique également à tout chrétien. Ce caractère qui est souligné dans le Nouveau Testament n'est pas simplement le critère de réussite du ministère, mais c'est le critère de réussite dans la vie chrétienne. La vraie réussite, si nous sommes chrétiens, avoir réussi sa vie, ça ne se mesure pas tellement au niveau professionnel, ou au niveau financier ou matériel, même si Dieu peut nous bénir et nous conduire dans ces domaines, si on peut servir Dieu là où on se trouve. Ce n'est, si j'ose le dire, même pas dans le fait d'exercer autant de dons spirituels qu'on puisse trouver dans la Bible. même si 1 Corinthiens 14, verset 1 nous exhorte d'aspirer aux dons spirituels. En même temps, dans Luc 10, lorsque les 70 disciples sont revenus retrouver Jésus, après qu'il leur avait donné l'autorité pour guérir, pour chasser des démons, lorsqu'ils reviennent en disant « Mais Seigneur, c'est incroyable, même les démons sont soumis à nous en ton nom. » Jésus leur dit cependant « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » La réussite chrétienne ne se définit pas par l'extérieur, mais par un caractère développé à l'image de Jésus, qui doit donc être notre objectif principal à tous. Donc, oui, on doit aspirer aux dons, mais pour pouvoir exercer correctement ces dons, pour que ces dons soient une bénédiction pour le corps de Christ, on a besoin que notre caractère soit transformé à l'image de Jésus. On a lu ce que Paul disait à Tite dans Tite chapitre 1 concernant les responsables. Je vous encourage en rentrant de lire Tite chapitre 2 où il parle après de toutes les personnes qui font partie de l'Église. Il dit dans le chapitre 1 « Cherchez des responsables avec un tel caractère ». Dans le chapitre 2, il dit « Puis enseignez aux hommes âgés d'avoir tel caractère. Enseignez aux femmes âgées d'avoir ce caractère. Enseignez aux jeunes d'avoir un tel caractère. » Et dans 2 Pierre, chapitre 1, l'apôtre Pierre écrit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, donc si vous avez ce caractère développé en vous, et si ces choses y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc il dit « Cherchez surtout à développer le caractère qui correspond à l'Évangile, qui correspond finalement au caractère de Jésus. » Et donc, il faut que nous permettions à ce caractère de se développer en nous. Il faut qu'on, même, selon Pierre, qu'on soit plus qu'active en voulant développer ce caractère en nous. Il dit, faites tous vos efforts pour développer un tel caractère. Et la Bible nous montre plusieurs éléments qui doivent servir à développer ce caractère de Jésus en nous, qui sont là pour que, par ces choses, nous puissions développer un tel caractère qui nous permettront de réussir dans la vie chrétienne et aux yeux de Dieu, qui est finalement la réussite la plus importante de toutes. Qu'on réussisse aux yeux d'un patron, c'est bien, mais le patron un jour va prendre sa retraite, va mourir, et son avis ne servira à rien au dernier jour. C'est bien de réussir aux yeux de nos proches, de notre famille, de nos amis, mais c'est pareil, ça reste des êtres humains. La vraie réussite, c'est de réussir aux yeux de notre Père céleste et d'avoir son approbation. Donc, la première chose que Dieu nous donne pour développer le caractère de Jésus en nous, c'est à travers notre communion avec lui. C'est la chose principale, le moyen principal pour que ce caractère se développe en nous. Le Nouveau Testament nous enseigne le principe « Ne vous trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. » Vous pouvez commencer avec plein de bonnes intentions, avec plein de bonnes idées, mais la Bible dit « Ne vous trompez pas. Ne croyez pas que vous soyez plus intelligent que Dieu ou plus fort que tous les autres. Si vous passez tout votre temps avec des gens de mauvaise compagnie, de mauvais caractère, ça finira par vous atteindre et vous allez les ressembler. Inversement, si nous passons du temps avec le Seigneur, nous allons commencer à ressembler au Seigneur. Passer du temps dans sa présence, passer du temps dans la lecture de sa parole, passer du temps dans la prière, ça va cultiver ce caractère de Dieu en nous pour que nous ressemblions à Jésus. Plus nous recherchons la présence de Dieu, plus l'Esprit de Dieu peut prendre sa place en nous. Et la Bible nous dit en Galates 5, verset 22, que justement, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'aller au cactus acheter des pommes et puis les coller sur un arbre pour pouvoir récolter des arbres dans votre jardin. Il suffit de planter un pommier. Et là où il y a le pommier, c'est dans sa nature que, à terme, vous aurez du fruit, vous aurez des pommes à récolter. Ces caractéristiques-là, on n'est pas censé forcément courir à droite et à gauche pour les chercher. Mais ce sont le fruit de l'Esprit. Si nous permettons à l'Esprit de Dieu d'agir dans notre vie, si nous passons du temps avec lui en prière et dans la lecture de sa parole, c'est dans sa nature que son fruit poussera en nous. Et qu'ainsi notre caractère ressemblera de plus en plus au caractère de Jésus. Si je peux le dire inversement, si nous sommes honnêtes, combien de fois on a par moment négligé notre lecture de la parole ou négligé notre temps de prière? Et à combien de fois par la suite ça s'est répercuté surtout sur notre caractère? Nos avis n'ont peut-être pas changé. On a toujours cru à la vérité de la doctrine biblique. Mais ça se sent quand même dans notre caractère. Cette distance qui s'est faite vis-à-vis du Seigneur, où notre caractère, finalement, revient au naturel. Revient à ce qu'on est sans l'œuvre du Seigneur en nous. Et on a besoin de revenir au Seigneur pour que son esprit continue la transformation de notre caractère. On a besoin de cette vie du Seigneur coule dans notre vie. Intéressant de voir que dans Jean 15, Jésus faisait ce parallèle entre nous et les vignes. Et il disait, vous avez besoin que ma personne, mon caractère, ma nature, mon esprit coule en vous comme le sève dans les branches. Pour avoir cette vie. Vous pouvez avoir, pareil, un arbre qui a toujours été bien, qui a porté du fruit, mais à partir du moment où, pour une raison ou une autre, la sève arrête de couler dans la branche sèche et meurt. Et c'est là où Jésus disait à ce moment-là, il ne reste plus qu'à couper cette branche. On a constamment besoin de laisser la vie du Seigneur, laisser l'Esprit couler dans notre vie à travers justement la prière, la louange, la lecture de sa parole pour qu'il puisse nous travailler, pour que notre caractère continue à se développer à l'image de Jésus, si j'ose le dire, ça compte aussi pour notre fréquentation de l'Église. On a besoin de venir louer le Seigneur ensemble, discuter ensemble du Seigneur, être édifiés les uns par les autres, être édifiés par les prières des uns et des autres, entendre lorsque l'Esprit donne une parole pour son Église. Si on vient très sporadiquement, il ne faut pas être surpris si notre caractère ne se développe pas comme il devrait. Mais il est important d'ajouter une condition à cela. Venir à l'église, c'est important. Lire la Bible et prier, c'est important. Mais justement, dans Galates 5, Paul dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Quand il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il dit tout ça c'est vrai, mais cela n'impactera votre caractère, n'aura d'effet sur votre caractère que si vous marchez selon l'esprit. Et dans le verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, notre obéissance est aussi essentielle. Vous savez, il est aussi possible de juste lire religieusement la Bible, de juste avoir un temps de prière religieux où finalement on se félicite d'avoir rendu ce service à Dieu, de prendre du temps avec lui. Mais où finalement on n'obéit pas à ce qu'il nous dit. Le défi, lorsqu'on lit la parole de Dieu tous les jours, c'est d'être à l'écoute, d'apprendre les leçons, de laisser Dieu nous transformer en obéissant à sa parole. Notre chair n'aime pas ce principe, n'est-ce pas? On préfère pouvoir simplement, à la limite, lire, prier et puis dire que c'est fait. La Bible nous dit que l'essentiel, c'est d'obéir à ce que Dieu nous dit. Donc, notre chair n'aime pas le principe de l'obéissance, mais pire encore, une des autres méthodes principales que Dieu nous dit qu'il emploie pour le développement de notre caractère, ce que notre chair sans doute déteste encore plus que la notion de l'obéissance à la parole, c'est le moyen des épreuves. Et Dieu nous dit que souvent il permet des épreuves dans notre vie pour travailler notre caractère. Lorsque ces épreuves viennent, souvent l'ennemi va nous dire c'est la preuve que Dieu ne vous aime pas. D'ailleurs, on a entendu même dans le témoignage ce matin, soit Dieu ne vous aime pas, soit Dieu n'existe pas ou il n'a pas la puissance de vous garder de ces épreuves. Mais écoutez ce que dit le Saint-Esprit à travers Jacques, dans Jacques chapitre 1, versets 3 et 4. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Pas pour vous, mais pour moi, être parfait et accompli sans faillir en rien semble une bonne définition de la réussite. Donc Dieu nous dit, si vous voulez atteindre la réussite, il va falloir que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Mais comment avoir cette patience? Il dit, c'est par l'épreuve de votre foi. Romains chapitre 5, Paul dit bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions. Combien d'entre nous vont dire en toute sincérité, Je qu'est-ce que je me glorifie de mes afflictions? Est-ce que lorsque les afflictions nous touchent, c'est notre première réaction? Mais nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Et puis Paul va dire, et l'espérance ne trompe pas. Notre chair n'aime pas les épreuves. À part les rares cas où Dieu met notre cœur à l'épreuve par l'abondance pour nous forcer à apprendre à gérer l'abondance tout en restant fidèle à lui, ce qui n'est pas toujours plus facile que de gérer les besoins ou les difficultés. Mais en général, on n'aime pas passer par l'épreuve. C'est comme ça que l'ennemi, justement, arrive dans ces moments-là à utiliser ces épreuves pour nous faire douter de la grâce de notre Dieu à notre égard. Par contre, la Bible nous prévient que les épreuves sont des moyens importants donc pour développer le caractère de Christ en nous, ce qui est essentiel pour notre réussite. Donc comme Bertin a cité tout à l'heure, Romains 8, 28, mais c'est toujours important aussi d'ajouter le verset 29. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et puis donc, dans le verset 29, il nous donne la définition du mot « bien ». Qu'il emploie dans le verset 28, quand il dit que toute chose concourt à notre bien. Ce bien, c'est ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Donc nous savons que toute chose concourt à notre bien, parce qu'à travers ces toutes choses, Dieu est en train de travailler notre caractère pour que nous ressemblions à Jésus, pour que nous développions la persévérance, la victoire dans l'épreuve, l'espérance, la patience. Finalement, c'est normal que on soit obligé de temps en temps à passer par les épreuves pour avoir notre caractère développé, pour réussir dans la vie chrétienne. Parce que Hébreux 2, verset 10 nous dit que le Père a élevé Jésus à la perfection par les souffrances. Alors, si Jésus, Fils de Dieu, sans péché, a dû passer par là pour atteindre la perfection, à combien plus forte raison, nous, on doit passer par les épreuves pour que notre caractère soit développé à l'image du caractère de Jésus, pour qu'on puisse réagir comme lui, pour que nous aussi, nous puissions avoir cette réussite et d'atteindre la gloire que Dieu a mise en place pour nous et a prévue pour nous. Donc en tant que chrétien, la Bible nous montre qu'il est important de reconnaître ce qu'est la vraie réussite. Important donc de rechercher la vraie réussite. Les autres choses finalement restent secondaires, comparées au développement du caractère de Jésus dans notre vie. Si on veut rechercher cette vraie réussite, c'est important de voir ce que la Bible nous dit sur les méthodes que Dieu a mis à notre disposition pour y arriver, pour réussir, pour avoir un tel caractère. Et donc, comme dit Pierre, du coup, de faire tous nos efforts pour que ce caractère se développe en nous. Cela nous aidera donc, d'une part, à traverser toutes ces circonstances avec la paix et la joie dans notre cœur. Comme dit Paul, nous pouvons même nous glorifier de ces choses parce que nous savons qu'à travers ces choses, Dieu est à l'œuvre dans notre vie pour qu'on réussisse. Et puis donc, surtout, si on recherche cette réussite-là, alors nous réussirons réellement aux yeux de notre Père Céleste et nous aurons donc cette réussite éternelle, puisque Dieu aura développé le caractère de Jésus dans notre vie.